Les discussions du soir. Les discussions du soir, Régis Debray.
Avec Jean-François Colosimo. Jean-François Colosimo, directeur des éditions du CERF, président de l'Institut théologique Saint-Serge et auteur de plusieurs et décisifs essais sur théologie et politique. Je voudrais mentionner le dernier, qui est fondamental, « L'homme en trop » sur les chrétiens d'Orient chez Fayard. Jean-François Colosimo, bonsoir.
Bonsoir, Régis Debray.
Oui, alors écoutez, on est bien d'accord, hein, ce sont les hommes qui font la guerre des dieux et cela ne date pas d'hier. Vous êtes chrétien, ô combien, connaissant à la fois et pour cause l'orthodoxie et le monde catholique, et je ne voudrais pas évidemment inculper le christianisme ce soir. L'Inde et le Pakistan, la Chine et le Japon n'ont pas besoin pour s'étriper de Jésus-Christ. Et les bons bouddhistes prennent les armes quand il le faut. Nous le savons bien. Mais enfin, regardons l'histoire. C'est tout de même du plus évangélisé des cinq continents que sont sortis les deux guerres mondiales. C'est tout de même le pape qui a lancé les croisades. Et il y eut des bûchers, il y eut des ghettos. Autrement dit, comment abordez-vous ce lien, disons, attesté, historique, factuel, entre le religieux chrétien et la guerre ?
Les chrétiens ont fait la guerre initialement, après l'évangile et après la mort de leur Dieu sur la croix. Ils avaient, en quelque sorte, deux possibilités devant eux. Être dans un pacifisme, un irénisme total, et finalement disparaître, parce que tout de même ils étaient sous le coup des persécutions romaines, en tant que secte rétive, réfractaire, rebelle à la religion impériale de Rome. Ou alors, ils allaient faire la guerre comme les autres. Et il se peut qu'ils aient fait la guerre par moments comme les autres, mais ce qui a caractérisé le christianisme, c'est que le christianisme a voulu penser la guerre, et à penser que si effectivement l'histoire a une épaisseur propre, parce que le christianisme c'est la religion de l'incarnation, donc on ne va pas d'un coup faire de l'angélisme, on ne va pas se projeter dans des utopies, et bien malgré tout il fallait humaniser la guerre. Et toute la doctrine actuelle des relations internationales, elle provient d'un effort théologique, qui part d'Augustin, qui passe par Thomas d'Aquin, qui arrive à Vitoria, l'école de Salamanque, les dominicains du XVIe siècle, Grotius. Et là, on assiste à quoi ? À l'édification d'une théorie qui s'appelle la théorie de la guerre juste, qui distingue le droit à la guerre, et c'est un droit purement défensif, on n'a pas le droit d'attaquer, et puis le droit dans la guerre, il faut que la riposte soit proportionnée. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'en fait, le christianisme, qui a en lui-même sa propre puissance de sécularisation, a humanisé la guerre, c'est-à-dire a fait en sorte que la guerre ne devienne pas totale et pure barbarie.
Certainement, il a civilisé en quelque sorte la barbarie, mais vous le savez bien, les trois premiers siècles, je dirais jusqu'à Constantin ou jusqu'à Saint-Augustin, c'est la guerre elle-même qui est condamnée, même si Matthieu 10, 34, excusez-moi,
non, je vous en prie, c'est...
ne pensez pas que je vienne apporter la paix sur la terre, je viens apporter la guerre. Mais enfin, il est de fait que le centurion était condamné. Et puis tout d'un coup, c'est le déserteur qu'il est. Donc il y a eu une évolution avec la prise de pouvoir. Mais en dehors de ça...
Oui, c'est ce qu'on appelle l'Église, le passage à l'Église impériale, oui. Mais qui n'est qu'un passage.
Qui a duré tout de même quelques siècles.
Bien sûr, enfin avec la division quand même entre l'Orient et l'Occident. Oui. Mais je crois que ce qu'il faut retenir de cela, surtout, c'est que... si on lit bien Régis Debray, eux et nous, la limite, la désignation de l'ennemi, l'adversaire, la capacité à se définir collectivement par rapport à des motifs transcendants pour en quelque sorte exister. Exister, c'est exister contre. Ouais. J'espère ne pas m'aboulir. Bah, dans ce cas-là, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les religions ont un dieu qui est un dieu victorieux. Yahvé apporte la victoire. Allah apporte la victoire. Les victoires des fidèles sont les victoires de leur dieu. Le christianisme, c'est la seule religion qui a un dieu qui perd. Il perd sur la croix.
Oui, mais tout de même, nous sommes d'accord avec Héraclite d'Éphèse, vous et moi, père et roi de toutes choses, est la guerre. D'accord. Mais n'y a-t-il pas un aggravant monothéiste? Moi, si vous voulez, ce qui me gêne... Bon, ce qui me gêne... Étant chrétien de culture, je m'y suis fait, mais tout de même. C'est la question de l'unicité, du Dieu unique, si vous voulez. C'est-à-dire, le Dieu d'amour et de miséricorde, il est le seul. Et le christianisme étant passé par le moment philosophique grec, 2e et 3e siècle, c'est le vrai Dieu. La vraie religion du vrai Dieu. Ça veut dire que les autres ne peuvent être totalement respectés puisqu'ils sont dans l'erreur, et même plus que dans l'erreur, ils sont dans la faute. Tout de même, il y a dans la religion chrétienne le démon. Satan n'existe pas dans le système coutumier, animiste, africain, et disons que les ancêtres sont plus accommodants que le démon. Autrement dit, est-ce que ce qui fait la terrible cruauté des guerres de religion, je pense protestants catholiques, par exemple, au XVIe siècle, c'est que l'ennemi ou l'adversaire est en quelque sorte déshumanisé. C'est un pécheur, il faut le remettre par la force. Il faut quasiment sauver son âme en tuant son corps. Autrement dit, est-ce que c'est le fait qu'une guerre dite de religion soit une guerre absolutiste où il n'y a pas de compromis, où il n'y a pas de transaction possible, parce que ce qui est en litige, ce n'est pas seulement un territoire ou un intérêt, c'est la vérité. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose tout de même qui va radicaliser, je dirais, la donnée héraclitienne, si vous voulez, la donnée polémique de base?
Écoutez, vous me mettez dans une position difficile, Régis Debray, parce que j'ai l'impression, là, d'un coup, de devoir devenir l'apologète du christianisme.
Pourquoi pas?
Mais d'abord, je ne suis pas sûr que le christianisme soit un monothéisme. En tout cas, les juifs orthodoxes et les musulmans orthodoxes ne considèrent pas le christianisme comme un monothéisme, puisqu'il y a la Trinité, puisqu'il y a l'incarnation. C'est vraiment une variante totale. Alors évidemment, tout système de vérité qui est causal, qui suppose une vérité unique, laquelle détermine tout, bah, elle va ramener d'ailleurs au schéma que depuis critique de la raison politique vous explorez, à savoir que l'ennemi, il est forcément un suppôt de l'adversaire avec un grand A. Bon, mais alors là, on bute sur une difficulté. C'est soit ce schéma monothéiste de la vérité unique, eh bien, à travers l'occidentalisation du monde, s'est diffusé à toutes les cultures. Et lorsque les hindouistes veulent purifier l'Inde des chrétiens, des musulmans, peut-être qu'ils se conforment à ce système, ou peut-être, en fait, ce que nous appelons monothéisme, polythéisme n'a jamais existé, au sens où nous y entendons très souvent, c'est un peu une sorte, un peu, ça fait partie des sanglots de l'homme blanc, n'est-ce pas, que les polythéistes seraient supérieurs parce que le pluriel apporterait du pluralisme. Mais c'est pas vrai. Je veux dire par là que la pluralité des dieux de l'Inde n'empêche pas que l'on persécute, chasse et extermine celui qui n'est pas hindou.
Oui, la pluralité des dieux grecs et des dieux romains n'empêchait pas d'exterminer l'adversaire, il est vrai.
Donc il faut distinguer la théologie politique qu'il y a derrière. L'Empire romain accueille tous les cultes, sauf les cultes qui le contredisent. Et ceux-là, il les persécute et il jette les sectateurs de ces cultes au lion. Donc là, je crois pas du tout que le pluralisme ne suppose pas un adversaire diabolisé. Qui plus est, si on admet qu'il y a quand même une part religieuse dans les systèmes totalitaires, on voit bien que cette reproduction de l'hérétique, du suppôt du diable, n'est-ce pas?
Du trotskiste, de l'oppositionnel, oui, bien
sûr. Est-ce qu'on n'est pas là sur des structures anthropologiques qui dépassent de loin les monothéismes?
Je suis d'accord. Alors, tout de même, écartons, si vous voulez, l'exemple chrétien.
Oui.
Parlons du religieux en tant que tel. Il me semble, je ne suis pas le seul à le dire, que la mort est la donnée fondamentale du religieux, je veux dire la négation de la mort par la position d'un au-delà de la mort. Et cela suscite, je dirais, une aptitude à la mort, à la limite une confiance dans la mort, en tout cas une aptitude à recevoir la mort, et c'est le sacrifice, ou le martyr, mais aussi une aptitude à donner la mort, qui font que, d'ailleurs, il y a quelque chose de comment dirais-je, il y a une connivence, une collusion, je dirais presque une camaraderie entre la guerre et la religion, ou ce qu'on appelle ainsi. D'ailleurs, souvenez-vous, vous le savez, chaque état de guerre remplit les cathédrales, hein, remplit les églises. Elle multiplie aux États-Unis les Breakfast Prayers, les apparitions mariales en Europe aussi, hein, Fatima 1917. Et d'ailleurs, je relisais l'autre fois la nostalgie du feu de Teilhard de Chardin. C'est extraordinaire comment il exalte la guerre et comment, au fond, chez lui, l'expression baptême du feu prend un sens étrange. Et donc, je dirais que il est difficile de parler de religion sans parler, eh bien, de la mort.
Oui, bien sûr, puisque vous le dites très bien, les religions supposent, sur un mode ou sur un autre, alors là, pour le coup, c'est parfaitement vrai, dans les religions dites abrahamiques, on va dire, c'est plus simple, judaïsme, christianisme, islam, c'est encore plus fort, il y a cette eschatologie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ce royaume à venir qui est derrière, un temps après le temps qui n'est pas le temps et qui, en quelque sorte, délivrera le temps de ses limites. Cette eschatologie, on le sait très bien, elle a été transférée depuis les Lumières dans l'horizon social. Ce qui explique peut-être d'ailleurs les formes exacerbées religieuses que nous connaissons aujourd'hui. Et si nous admettons encore une fois qu'il y a eu des formes de militantisme qui ont eu un caractère quasiment religieux, d'ailleurs avec les bons aspects. On a pu parler de sortes de saints laïcs, de ces ouvriers typographes, anarchistes et autres, n'est-ce pas, hein, des personnalités d'une moralité exceptionnelle.
Oui, enfin, disons qu'il y a des religions athées, pour aller vite.
Voilà. Bon, hein, le phénomène religieux, c'est vous qui l'avez écrit mieux que quiconque. Ça, c'est pas les credos, c'est pas les croyances. C'est véritablement le soubassement du politique. Oui. Alors, par rapport à ça, ce qu'il faut noter quand même, c'est que les religions constituées, elles admettent la mort et le sacrifice, bien sûr, mais elles prônent la vie encore plus. Et donc, dans ce rapport dialectique, il y a le fait que la plupart, aucune des religions, finalement, n'admet le suicide. N'est-ce pas ? En tout cas, les religions abrahamiques le condamnent. Mais il y a des situations limites dans lesquelles le sacrifice est requis, qui va s'appeler martyr, qui va être un témoignage.
Oui, tout de même, les Maccabées, Massada, les Zélotes, enfin. Oui. Il y a des suites collectives, c'est vrai. Ouais,
des situations limites.
Des situations limites.
Des situations limites. D'accord. Mais, malgré tout, il y a un excès du mal. Et c'est cet excès du mal qu'il va falloir, en quelque sorte, tempérer. Et ça, c'est déjà la Grèce, n'est-ce pas, dans l'Iliade, le problème de la restitution du cadavre. Hein, le cadavre de l'ennemi ne peut pas être spolié. Il y a quelque chose de sacré qui est quand même attaché à la vie, même par-delà la mort, même l'ennemi qu'on a tué. On ne peut pas le désacraliser dans sa personne et dans son corps.
Ce qui reste aujourd'hui dans nos sociétés, puisque on ne peut pas violer un cercueil, on dit qu'on profane. Donc il y a du sacré dans le cadavre.
Ouais. Et donc il y a même du sacré dans la guerre. Ouais. Et l'expérience de la guerre, c'est une certaine expérience du divin. Les textes des poilus, vous citiez Teilhard, la guerre de 14-18, ce déluge d'orages de fer, ces orages de fer, d'acier, etc., créent d'abord une sensation apocalyptique, donc quelque chose qui est proche de l'eschatologie. Mais qu'est-ce qu'il en ressort de manière tout à fait extraordinaire? C'est que on voit bien que c'est l'excès du mal. D'ailleurs, bon, l'Europe se réveille à la gueule de bois, elle s'en est jamais remise. C'est la fin de l'Europe. L'Europe, elle sort de l'histoire à ce moment-là. Elle qui vous prétendait apporter le progrès de la civilisation à travers le colonialisme, la voilà qui se livre à une boucherie sanglante. Mais dans cette boucherie sanglante naît quelque chose de très intéressant, c'est la fraternisation par-delà les lignes ennemies. C'est-à-dire qu'il y a un degré de mal, il y a un excès de souffrance dans lequel, au sein d'une guerre classique, on ne peut plus diaboliser l'adversaire, parce qu'il souffre autant que vous. Il est autant que vous face à l'incohérence, mais aussi finalement à la terreur. Or, la terreur, c'est aussi une manifestation de Dieu. Vous voyez, il y a eu toute une littérature sur les anges, là, une littérature californienne depuis 30 ans. Les anges, c'est sympa. Il n'y a aucune tradition religieuse qui dit que rencontrer un ange, c'est sympathique. Rencontrer un ange, c'est terrible. C'est un phénomène de terreur. Il y a une terreur dans la guerre.
Bah, Jacob se bat avec l'ange et, ouais. Et en conclut qu'Israël, que Dieu est le plus fort, que l'ange représente un Dieu qui est plus fort que lui.
Oui, parce que l'ange, c'est l'épiphanie du... on voyait à Rudolf Otto, n'est-ce pas, hein, sur le mystère à la fois attrayant et terrifiant. L'expérience de la guerre, c'est une expérience limite, où tout peut arriver. Et en fait, les religions vont s'efforcer de dire que là-dedans, il y a de l'excès du mal, qu'il faut malgré tout limiter.
Oui, alors moi je dirais un peu à l'inverse de vous, mais on se rejoint peut-être. La guerre est hiérogène, elle engendre du sacré. Le sacré engendre du sacrifice, ou plutôt recommande le sacrifice. Et la guerre elle-même engendre du sacré dans la mesure où elle constitue un nous, dans la mesure où, je dirais, elle transcende l'individualité du moi et fond le combattant ou le soldat dans un nous qui a sa chaleur et qui a sa mystique. Donc, en ce sens, la guerre est effectivement porteuse, j'allais dire, de religion en général. Et c'est pourquoi, enfin, on arrive à la religion par la guerre et la religion peut conduire à la guerre. Bon, c'est peut-être pas un cercle vicieux, mais c'est une réalité historique. Eh bien, poursuivons cette conversation du soir, mon cher Colosimo, approfondissons, grattons, allons encore plus loin.
Certes, Régis Debray.
Alors, là, on va vers des lisières un peu, je dirais pas sulfureuses, mais un peu paradoxales par rapport, je dirais, au propos de chaque jour qu'on entend un peu partout. Donc, premier paradoxe, la globalisation économique, chacun le sait et le dit aujourd'hui, provoque une véritable explosion, exacerbation des différences, c'est-à-dire des singularités, des identités culturelles ou civilisationnelles. Autrement dit, plus vous unifiez d'un côté par les appareillages et les modes de vie, plus vous créez le besoin de l'autre d'appartenance, et donc vous revenez aux fondamentaux de votre appartenance. Donc vous revenez aux religieux et, je dirais, aux guerres de religion, je dirais plutôt au passage de guerres territoriales politiques à des guerres à forte empreinte religieuse. Je pense à la Palestine, par exemple. Israël-Palestine, c'est évident. Échec politique, échec diplomatique, donc chacun retourne à ses sources. Donc, au fond, c'est ce qui fait, je dirais, des guerres dites de religion ou des guerres saintes, on va peut-être nuancer, un problème de plus en plus actuel.
Oui, Régis Debray, on va être d'accord là-dessus. Vous voyez bien le vocabulaire des guerres aujourd'hui. Croisade, djihad, les uns désignent le grand Satan, les autres renvoient à l'axe du mal. On est dans un vocabulaire tout à fait théologique, mais la réalité, elle n'est plus du tout théologique, puisque très précisément, on assiste, y compris dans les corps religieux, à un décrochage entre le culte et la culture. C'est-à-dire que ces néo-religions, ces formes religieuses nouvelles, dont les formes les plus prégnantes sont d'un côté l'islamisme et de l'autre l'évangélisme, l'islamisme qui vient du monde arabo-musulman, l'évangélisme qui vient du nouveau monde américain, ce sont des mouvements tout à fait modernes, dans le sens où ils sont prosélytes, ils sont militants, ils sont dans l'instantanéité, ils sont en quelque sorte, ils vous proposent la hotline avec le ciel, n'est-ce pas ? Et aussi l'immédiateté de la réparation de votre justice de croyant face à un monde de l'incroyance, mais ils ne produisent pas de théologie. Ils sont athéologiques. Ils sont peut-être même athées sans le savoir. C'est ce qu'il faudrait penser. Alors, il y a la guerre des religions entre elles, et puis il y a la guerre des religions instituées à la guerre des religions. C'est assise. C'est lorsque le pape, en 1985, dans mon souvenir, a réuni autour de lui tous les hiérarques religieux pour condamner la guerre, et surtout la guerre des religions et l'instrumentalisation de Dieu.
En l'occurrence, je crois que c'était aussi la guerre dans les Balkans. Et
oui, il y avait cela déjà.
Le bombardement de la Serbie par l'OTAN. Mais attendez, j'ai envie de vous, là, de vous peut-être faire une objection.
Oui.
Il me semble que chez nous, je dirais, occidentaux, j'emploie ce terme provisoirement, le culte devient culture. Disons, les lieux de culte deviennent des lieux où il y a des orchestres, ou même au Québec, des boîtes de nuit, si vous voulez, le culte devient culture, mais que chez eux, si j'ose dire, c'est-à-dire au-delà de la Méditerranée, les cultures laïques, les cultures redeviennent des cultes. C'est-à-dire, on le voit bien en Israël, le sionisme qui était une culture redevient un judaïsme orthodoxe. On le voit également en Égypte, une certaine culture nationaliste, nassérienne, redevient culte. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de déphasage, de croisement bizarre ? C'est-à-dire, nous nous éloignons des religions constituées, peut-être pour cette religiosité vague et un culte dont vous parlez, mais eux, si j'ose dire, pour opposer un nous à un eux, eux reviennent à des fondements dogmatiques.
Oui, bien sûr, pour ce qui est de ce moment historique, des tendances lourdes héritées, oui, mais en même temps, il n'est pas sûr que nous-mêmes, nous ne nous proposions pas assez vite une identité reconstruite, comme les autres reconstruisent leur identité, face au péril de la guerre, du terrorisme et d'un monde qui a perdu ses repères.
Qu'est-ce que vous entendez, identité reconstituée ? Nous les forçons à reconstituer leur identité,
non,
vous voulez dire,
par nos ingérences. C'est parce que, effectivement, je veux dire, on prend un grand penseur juif du Moyen-Âge, ou chrétien ou musulman, voyez, Maïmonide, Avicenne et Thomas d'Aquin, vous mettez Thomas d'Aquin en Californie avec les évangéliques d'aujourd'hui, vous mettez Avicenne chez Daesh, vous mettez Maïmonide, je ne sais dans quel yeshiva ultra-orthodoxe, etc., je suis pas sûr du tout qu'ils aient l'impression d'être chez eux. Ah, il y a une rupture. Il y a une rupture moderne, une reconstruction. Mmh. Bon, aujourd'hui, tout ce que je vois, moi, c'est que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui n'était pas tout à fait destiné à avoir ce vocabulaire, finissent par nous dire que, effectivement, il y a un soubassement chrétien et catholique à l'histoire de France qui détermine des valeurs. Ils le disent d'autant mieux que lorsqu'un prêtre se fait égorger dans son église, c'est l'église catholique qui s'empare du discours de la laïcité et qui a le discours de la paix civile. Donc, disons que peut-être nous sommes, nous, en transit. Peut-être que, justement, le problème de demain en France, ce sera d'éviter ces identités reconstruites. Vous savez très bien aussi que, dans nos banlieues, c'est la troisième génération qui, d'un coup, se découvre complètement musulmane. Mais cet islam, c'est un islam salafiste, lui aussi reconstruit. Donc, peut-être que, justement, demain, un des soucis de la France, ce sera d'éviter une importation de guerre civile de basse intensité, latente, entre toutes ces identités qui sont des identités artificielles. Pourquoi elles sont artificielles? Parce que plus la mondialisation, vous l'avez dit tout à l'heure, crée une espèce d'individu, en quelque sorte, neutre, qui est capable de vivre dans n'importe quel mégalopole.
Oui, un homme hors sol, pour ainsi dire.
Voilà. Plus, en fait, à la périphérie, les identités explosent, se rebellent, les tribalismes reviennent, et quand on creuse, quand on veut s'opposer, eh ben, vous l'avez dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va vous donner le moyen de vous opposer au rouleau compresseur de la mondialisation qui semble irrésistible, si ce n'est de mettre votre mort dans la balance? Et pour mettre votre mort dans la balance, il vaut mieux quand même, effectivement, par exemple, l'islamisme que le communisme.
Oui, effectivement, parce que l'un donne un au-delà. Je parle de l'islamisme et l'autre n'en a pas. C'est le grand problème des religions séculières. Elles ne savent pas répondre à la question de la mort. Mais cela dit, tout ce que vous avez dit me faisait penser, en vous écoutant, mon cher Colosimo, serait peut-être temps, nous, de reconstruire une identité historique nationale pour éviter à nos diverses populations, avec un S, comme on dit, puisqu'on ne leur donne plus les moyens de faire peuple, pour leur éviter de reconstruire artificiellement leur identité, nous pourrions peut-être retrouver la nôtre naturellement. Après tout, pourquoi pas? Mais il faudrait là vraiment revoir nos livres d'histoire, et ce serait sans doute difficile. On va nous accuser, évidemment, des pires crimes conservateurs et nationalistes. Bon, mais...
Peut-être, si vous permettez, ce qui a changé aussi, c'est quand même la guerre a changé par rapport aux faits religieux. Vous savez bien que la guerre, elle a changé en elle-même. C'est-à-dire la guerre des professionnels de la guerre du XVIIIe siècle, les batailles rangées entre troupes enrégimentées, parfois de mercenaires, elle est devenue, à travers la conscription républicaine...
Des guerres du peuple.
À travers Napoléon, bien sûr.
Des guerres nationales
Des guerres qui recrutent tous les hommes. Oui. Et puis ensuite, ce sont des guerres qui ont, à partir surtout de la Deuxième Guerre mondiale, touché indistinctement les civils. Les bombardements de Londres ou de Dresde, c'est les populations civiles, sont militarisées de force. Donc la guerre, elle s'est démocratisée, elle touche tout le monde. Vous savez que évidemment, ce qui naît, c'est lors de la campagne de Napoléon contre l'Espagne, c'est évidemment le partisan, lequel ensuite va devenir le militant, lequel aujourd'hui est en fait le terroriste fanatisé. Il y a une continuité.
Chez nous, le militant, ça s'appelle le supporter aujourd'hui, ou le fan. Ce n'est plus exactement le militant au sens originel du mot. Ce n'est plus un soldat Milès.
Ce n'est plus un soldat Milès. Et en fait, aujourd'hui, on en arrive à des guerres qui sont préemptives. Alors, on sait que c'était la théorie de George Bush Junior, le fils, pour attaquer l'Irak, que toutes les églises chrétiennes ont condamné, sauf les églises évangéliques. Toutes les églises chrétiennes, y compris américaines, ont dit que c'était une horreur par rapport à la théorie des guerres justes. Vous voyez, c'est un peu ça le génie du christianisme. Oui, c'est quand même, je veux dire. Mais il y a aussi la guerre préventive du terrorisme, qui est non seulement de diffuser la terreur, mais d'éliminer par avance les points de résistance, une sorte de gramschisme du meurtre. C'est-à-dire que on corrompt les sociétés de l'intérieur par la terreur, mais on élimine aussi, ça c'est la nouveauté en quelque sorte. Dans les révolutions d'antan, on éliminait les opposants potentiels après la prise de pouvoir. Aujourd'hui, on liquide l'opposition avant la prise de pouvoir. C'est ça la nouvelle guerre, un tout petit peu
nouvelle. Je ne vous suivrai pas, Jean-François Colosimo, parce qu'honnêtement, oui, je sais qu'on parle d'une troisième guerre mondiale, que les terroristes auraient déclenché, mais entre nous, quand on élimine 250 personnes par an, c'est une étrange guerre dite mondiale.
Oui,
c'est à peu près, je dirais, excusez-moi ce cynisme, c'est un lourd week-end de Pentecôte. Je ne pense pas que soient éliminés les opposants.
La capacité de résistance.
En France, je pense plutôt que ce terrorisme est un révulsif, que ce terrorisme nous oblige précisément à nous redéfinir de façon plus nette. C'est peut-être le barbare dont nous avions besoin pour redevenir une civilisation consciente d'elle-même. Je ne veux pas dramatiser, mais je voudrais...
Mais il y a quand même le mot du pape François, une troisième guerre mondiale en miettes. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas une guerre au sens classique, on sera d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, quand on dit c'est une guerre de la civilisation contre la barbarie, comme font beaucoup d'hommes politiques français de tous bords... À la suite d'ailleurs de George Bush,
on se rend compte que
la France est le dernier pays du néoconservatisme.
Oui, mais ça c'est acquis, il suffit de voir le Quai d'Orsay d'aujourd'hui.
Mais le pape François parle d'une guerre en miettes, en morceaux, en fragments, c'est-à-dire une guerre disséminée. Alors évidemment, quand on a 250 morts, évidemment ça semble, par rapport à ce qui se passe ailleurs, il faut le dire, pour le coup, enfin, malheureusement, comptabilité macabre, peu, mais... D'une part, nous avons appris que quand on a un soldat mort au Mali, ou au Liban, ou ailleurs, tout le monde se réunit aux Invalides. Je vous rappelle qu'on envoyait nos soldats mourir par milliers à l'heure ou à la journée à Verdun.
Ah bah écoutez, 26 000 morts le 25 août 1914. Le président Poincaré ne sort pas de son bureau.
Voilà. Et en fait, nous avons donc perdu le sens de sacrifice. On a l'impression qu'on a délégué la capacité de sacrifice à nos soldats, lesquels seraient payés pour ça.
Alors je vous pose là une autre question, Jean-François Colosimo. C'est pas à nos soldats, ou un peu à nos soldats, mais on en a plus beaucoup, on en a de moins en moins. C'est à nos armements, qui sont de plus en plus sophistiqués, c'est à nos drones, c'est à nos bombardiers. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est... Est-ce qu'à force de ne plus croire en rien, on ne va pas perdre toutes les guerres? Parce que je note que les États-Unis, avec une supériorité technologique écrasante, ont perdu à peu près toutes les guerres qu'ils ont livrées depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je dirais un petit bémol pour la Corée. Mais ma question serait, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, si vous voulez, un rapport de force inversé entre ceux qui ont trop de religion, disons... les terroristes, et ceux qui n'en ont pas assez, les occidentaux qui en ont tellement peu, qui préfèrent faire la guerre à distance en appuyant sur des boutons depuis l'Arkansas devant un écran, avant d'aller chercher le petit garçon à l'école. Est-ce que nous sommes encore en mesure de surmonter notre vide de croyance par la technologie? Est-ce que nous pouvons En d'autres termes, est-ce que nous pouvons encore gagner une guerre contre des gens qui sont assez croyants pour s'exposer à la mort?
Comme souvent, et comme je dirais toujours sur ces questions-là, cher Régis Debray, je me range à vos propres considérations. Il est évident que cette affaire du 11 septembre 2001, qui a non seulement inauguré le siècle, mais a marqué une rupture, n'est-ce pas? La mondialisation heureuse, la fin de l'histoire, l'histoire. C'est quoi le 11 septembre? C'est Ben Laden qui, dans le ciel de New York, vient contester la victoire sur l'athéisme en Amérique. C'est l'Afghanistan qui a eu raison du monstre soviétique, athée, qui voulait propager l'athéisme, qui disait qu'il n'y avait plus de religion. Ben Laden dit, est-ce que c'est vous, avec les missiles, les fameux Stinger, que vous nous donniez, ou est-ce que c'est mes hommes, parce qu'ils étaient prêts à mourir? Mais je vous en fais la démonstration, dans votre ciel, sur votre sanctuaire, sur votre terre promise, nous on est toujours prêts à mourir.
Et Ben Laden a le sentiment qu'on lui avait volé la victoire.
Bien sûr, parce qu'il pense que c'est le sang qui fait l'histoire, oui, et pas l'acier. Même si l'acier peut fabriquer du sang. Aujourd'hui, dans le conflit Irak-Syrie, il est très clair que nous gardons malheureusement une conception paracoloniale. N'est-ce pas? Puis pourquoi? Parce que, évidemment, nous sommes allés là-bas pour apporter la démocratie, bon, on a apporté le chaos. Nous sommes allés là-bas pour apporter la paix, c'est la guerre civile perpétuelle et c'est probablement pour 1000 ans. Mais ce qu'il y a de plus fort encore, c'est que comme nous ne savons plus mourir pour nos idées, ou plutôt parce que peut-être les gouvernements ne savent plus expliquer pourquoi il faudrait mourir pour des idées, peut-être parce qu'ils n'ont plus d'idées, ces gouvernements non plus, eh bien, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Nous exaltons les Kurdes comme finalement une sorte de nouveau peuple promis, puisque leurs femmes sont sans foulard, oui, oui, ils sont occidentaux, etc.
C'est notre chair à canon, on leur demande de mourir pour nous.
On leur fait faire la guerre pour nous,
oui,
sur le terrain. Et en plus, comme on n'est pas très confiant quand même dans les Kurdes, en dépit du fait qu'on les exalte à la télévision, on leur donne même pas les armes qu'il faudrait pour qu'ils se débrouillent cette affaire. Donc on est dans la temporisation.
Ou la mauvaise foi, si j'ose dire. Ouais, non seulement l'absence de foi, mais la mauvaise
pour
foi.
Pour le coup, la mauvaise foi. Et là, on voit que, qui plus est, cette guerre, on ne la comprend pas parce que c'est une guerre diffractée. Parce que, par exemple, on vous parle sans arrêt désormais, c'est devenu un truc dont personne ne parlait, évidemment, il y a 15 ans, et qui est devenu une tarte à la crème, la guerre entre les sunnites et les chiites. Mais il faudrait voir aussi les guerres internes aux sunnites, les guerres internes aux chiites, hein, on a en fait fait exploser le chaudron. Les nations que nous avons créées en quelque sorte de force, nous avons dessiné les frontières sur les ruines de l'Empire ottoman, eh bien ces frontières s'effacent et on redécouvre derrière la mosaïque. Et la mosaïque, elle est infinie.
Où se découvre que le plus moderne est le plus fragile, le plus superficiel.
Oui.
Où se découvre que les couches profondes sont les plus archaïques. Et que ce sont elles, paradoxalement, qui émergent dans la postmodernité. La prémodernité émerge dans la postmodernité. C'est un truc absolument effarant, qui est absolument pas prévu par,
ouais,
je dirais, par nos progressistes bon temps. Parce que des progressistes.
Avec quand même des leçons du passé, c'est que vous voyez, Saint-Louis, Richard, Cœur de Lion, ces rois croisés, surtout Richard, Cœur de Lion en l'occurrence, parce que c'était le contexte. Bon, il faisait la croisade, qui n'a jamais été qu'un pèlerinage armé. Hein. La croisade n'est pas consubstantielle au christianisme, comme le djihad l'est à l'islam.
Bah, c'est tout de même le pape, excusez-moi, qui a en 1096, à Vézelay,
oui, oui,
sur la date, qui a tout de même lancé la croisade.
Oui, alors. Mais pour aller, oui, mais la croisade, c'est pas une théorie qu'on trouve ni, pour le coup, dans l'évangile, ni dans la théorie de la guerre juste.
Pas d'accord. Le christianisme est missionnaire.
Mais la mission, ça n'est pas forcément la guerre. Il y a, par exemple, la mission en Europe, elle s'est faite, et ça a configuré l'Europe, par les monastères bénédictins. C'était pas des ordres, oui, militaires.
Oui.
Enfin, alors, mais ce que je veux dire simplement...
Le Miles Christi, le soldat du Christ, le chevalier... Mais écoute...
Non, mais Richard Cœur de Lion et Saladin, en, oui, tout cas, vous voyez, vous avez d'un côté un croix... Ils font tous les deux une guerre sainte,
oui,
mais ils s'allient. Ils s'allient contre qui? Contre les assassins de la montagne. Vous savez, les Achichines, hein, cette secte de tueurs. Donc, ça veut dire que malgré tout, même quand on fait des guerres saintes, il y a un moment où il apparaît quand même aux uns et aux autres que la sainteté de ces guerres peut être mise en doute. Et encore une fois, c'est véritablement le culte de la mort qui, à un moment, est écarté. Ce qui caractérise les engagements religieux extrêmes d'aujourd'hui, c'est que le vrai dieu des terroristes, c'était vrai d'ailleurs en Russie, hein, avant la révolution de 17, c'est la mort. Donc il y a un problème là.
Oui, parce que la mort débouche sur la vie éternelle. Attendez, c'est pas la mort qui est poursuivie, c'est l'entrée dans le paradis. C'est même pas la même chose. Vous voyez, moi je vous écoute et je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, mais tout de même il y a quelque chose qui moi me, comment dirais-je, qui m'indispose un peu, peut-être parce que j'aime les livres d'histoire. Quand j'entends un pape dire « tuer au nom de Dieu est une abomination », bah, tout d'un coup, je le dis, mais enfin, Saint-Père, ouvrez l'Ancien Testament, le livre de Josué, Ouvrez même le Nouveau, lisez les Actes des Apôtres, ouvrez saint Augustin. Saint Augustin qui dit que l'Église persécute par amour et les impies par cruauté. Mais enfin, l'Église persécute. Autrement dit, je me dis, mais tout de même, est-ce que ce refus moralement admirable n'est pas le symptôme, je dirais, d'une certaine décadence du religieux, d'une certaine, déclin, d'un certain affaissement. On ne présente plus le religieux que comme une morale, une éthique individuelle. Sans l'eschatologie, et je dirais sans les, sans les fondements dogmatiques.
Alors, cher Régis Debré, là, il faut quand même un peu un jour choisir, quoi. On peut pas dire, on aimerait que certaines religions fassent un travail critique sur elles-mêmes pour arrêter de poser des bombes, et lorsqu'il y en a une qui le fait avant toutes les autres, dire, ben, tu vois, c'est mou, tout ça. Je veux dire, on peut pas. Je veux dire, il faut choisir, là, C'est soit on souhaite, par exemple, que l'islam se débarrasse de l'islamisme, soit on regrette qu'en fait le catholicisme ne fasse pas la guerre. Vous voyez, je veux dire, il faut choisir.
Absolument.
Hein, il faut choisir. Mais
bon, donc, c'est le processus de civilisation, voilà, peut-être, que d'affaiblir le dogme religieux.
Mais vous pointez, non, c'est le caractère onusien, en fait, que vous aviez dénoncé, d'ailleurs, dans un petit livre par la taille, qui dénonçait en quelque sorte le mythe du dialogue des cultures. A fortiori, vous voyez, le dialogue interreligieux, tout le monde est d'accord pour la paix, l'amour, la civilité, etc. Le dialogue interreligieux, il est forcé pour les religions dans le cadre de la mondialisation, mais il peut revêtir un caractère effectivement onusien. En même temps...
œcuménique est faux.
Œcuménique,
en tout cas, convenable,
c'est entre
poli,
chrétiens, et oui, courtois, parce que effectivement, bon, en même temps, il y a des revers à tout ça, mais je dirais que ce qui caractérise encore une fois le christianisme, c'est tout de même cette capacité réflexive, autocritique, qui ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous la fameuse controverse de Valladolid. Est-ce que ces Indiens sont des êtres humains ou pas? Ben, y a une dispute, mais il y a une dispute.
Jean-François Colosimo, je vous rends les armes, si je puis dire. En tout cas, si je ne vous suis pas sur tout, je pense qu'il faut dire haut et fort aujourd'hui quelque chose qui va déplaire à nos amis anticléricaux, mais enfin, si les agnostiques étaient immunisés contre les hécatombes, cela se saurait. Et les guerres des 100 dieux, au XXe siècle, elles ont fait 100 millions de victimes. Donc ce n'est pas la mort de Dieu qui, celle dont Nietzsche parlait, qui instaurera la paix sur Terre, nous en sommes d'accord. Au moins, petit dénominateur commun entre nous deux.
Je vous remercie, cher Régis.
Les discussions du soir. Jean-François Colosimo, Jean-Richard Dufour et Laurence Genepin. Anne-Pascale Desvignes, Régis Debray.